Radio laisse dire.
La radio qui prend l'air.
La radio qui met le cap au large.
Oui, capitaine.
Le fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo.
Alors, je baisse un peu. Ouais, ça se rebranche, attends, ça se connecte. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je connais pas par cœur, mais on va voir. Tu racontes patati patata. Je te dis Hakuna Matata, chante pas de comptine, prends le katana. J'ai touché des teteux, du tété dans l'audit, t'étais pas endetté. Je vais pas m'embêter, je sais pas où t'étais, mais ta soeur m'a guetté.
Hakuna Matata.
C'est ça.
Tiens, nickel.
Ça c'est mon Instagram perso. Okay. Et pour le moment, artistiquement, etc., je partage pas tout.
Donc je suis Jean-Jacques Guillemin. Merci de nous accueillir sur votre bateau. Ici, on est où ? Au Gros d'Agde, sur le chantier allemand. Donc, c'est un chantier naval qui a pendant longtemps construit des tonniers, par exemple. Et puis maintenant, c'est du bateau de plaisance. Voilà.
Historiquement, les bateaux qui transportent le fret, ils étaient comment ?
C'est vaste. Il y a autant de modèles qu'il y a eu de solutions ou de besoins. Quand on a commencé, par exemple, à transporter du pétrole, on a fait des bateaux qui avaient des cuves et qui transportaient des liquides, ou du vrac de minerais. Puis d'autres ont transporté du liquide qui était du vin, des tonneaux. À chaque fois, le bateau s'est adapté aux besoins. Puis aussi au programme de navigation. Selon les mers que l'on traversait, les bateaux étaient construits différemment par des gens qui avaient des cultures très, très diverses. Il n'y a pas un modèle par type de fret, c'est presque à chaque fois une histoire qui se raconte entre un charpentier ou un constructeur de bateau, un commerçant qui voulait récupérer une matière première quelque part. Donc on peut voir que là, des bateaux, il y en a des dizaines de sortes et des milliers de sortes peut-être même. Puis avec le temps, les choses ont évolué. Quand la vapeur est arrivée, les voiliers ont commencé à disparaître au bénéfice de la vapeur qui était plus rapide et plus efficace par tout temps. L'évolution s'est faite aussi avec la technologie. Puis on a transporté de plus en plus gros, de plus en plus lourd. Et donc les bateaux sont devenus de plus en plus grands et de plus en plus volumineux. Et il y a eu beaucoup de solutions et c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de s'intéresser à ce qui a existé pour essayer d'en trouver les meilleurs arguments pour peut-être une vie future. On voit venir maintenant à nouveau des cargos à voile qui vont être de dimensions très variées, mais qui vont permettre de transporter et continuer à faire ce commerce dans le monde grâce à une énergie renouvelable. Donc c'est ce qui est passionnant.
Comment est-ce qu'on emménage l'intérieur pour transporter des marchandises ?
On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Certains commencent à se lancer, de refaire du transport maritime à la voile. Et donc, ils contactent des architectes. Ils définissent le type de matériaux qu'ils vont transporter. Donc là, par exemple, actuellement, il y a des entreprises qui se sont un peu spécialisées sur une liaison qui serait d'Amérique du Sud vers l'Europe. Donc, ils vont étudier, en fait, des bateaux où ils vont définir des dimensions de cale en fonction du matériau transporté. Donc là, du vrac de café ou de fèves de chocolat. Et puis, dans l'autre sens, des tonneaux de vin ou des bouteilles de vin. Et donc, vont avoir des cales pas forcément immense, c'est des bateaux qui vont être à la voile, donc on navigue pas à la voile comme on navigue avec un moteur. Et donc là, l'architecte et le constructeur vont adapter aux besoins. Et puis, je dirais que le commerçant, lui, il va définir un peu son coût de rentabilité, parce qu'il va falloir un équipage minimum, va falloir un peu d'énergie, va falloir amortir le bateau. Il va définir le poids transporté, en fonction aussi du marché qu'il obtient en tant que négociant vis-à-vis des gens qui vont lui vendre la matière. Donc tous ces paramètres vont s'empiler et vont définir et permettre de construire un bateau qui va être adapté à sa particularité à lui et à son marché à lui et à la mer qu'il va traverser. Et ça va finir par définir un bateau qu'un architecte et un chantier naval vont construire.
Dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, l'évolution du transport de fret, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que c'est une très bonne évolution. Vous êtes jeune, l'ère de l'écologie, de l'avenir qui est devant vous. Cette belle planète, on a eu un peu trop tendance à la laisser aux financiers et aux grosses entreprises. On a détruit la planète progressivement et on est en train de la détruire. Il faut revenir à des choses plus sereines, protéger la planète, naviguer à la voile avec une énergie qui est le vent, qui est quand même une très belle énergie. La seule différence, c'est qu'on a voulu faire un monde de rapidité, de vitesse. À la voile, faut pas penser vitesse. Faut penser météo d'abord, et c'est la nature qui va dicter le parcours et qui va dicter le voyage. Aujourd'hui, les voiles, c'est des choses qui ont grandement évolué grâce à la course en mer. Les technologies, les matériaux permettent maintenant d'avoir des rendements de navigation très importants avec la voile. Il y a d'autres choses à faire que de faire les plus grands et les plus longs bateaux du monde pour transporter des milliers et des milliers de containers dans un seul souci de rentabilité. On peut naviguer à la voile sereinement et transporter des masses importantes, d'autant qu'il faut revenir à des choses à échelle humaine qui ne nous rendent pas dépendants de gros trucs qui fonctionnent certes très rentablement, mais qui n'ont pas de respect ni de la nature ni de l'humain.
En toute honnêteté, le transport de fret en voile, est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'avenir du transport maritime ?
J'en rêve, parce que pour moi, c'est l'aboutissement d'une logique qui devrait s'appliquer systématiquement. Je pense que c'est Dame Nature et nos sociétés qui vont pousser le bouchon un peu plus loin. On voit bien qu'on a des critères actuellement qui sont liés à des guerres. Et forcément, ces grosses entreprises vont très rapidement s'apercevoir que la voile, c'était ce qui était le plus économique. Et donc vont forcément revenir de façon obligatoire à des choses plus humaines et plus terriennes, on va dire, avec le transport à la voile, qui économiquement pour eux sera très rentable. Parce qu'à partir du moment où vous exploitez une énergie qui ne vous coûte rien en termes de transport, eh bien, ils feront des bénéfices et ils gagneront de l'argent avec ça. Donc je pense que c'est plus l'idée de l'appât du gain qui les fera évoluer vers ça. Je pense que pour eux, ce n'est pas une philosophie, c'est plus une pression économique qui les amènera à faire ça.
Une dernière chose pour terminer. Vous nous avez dit quelque chose qui m'a marqué, c'est prendre le temps de vivre. Est-ce que vous avez autre chose à développer autour de ça ?
Ah, c'est ma philosophie depuis une dizaine d'années. En fait, on vit dans une société d'urgence. Tout doit aller vite. Tout doit être fini avant d'être commencé. Quand vous cuisinez, vous voulez faire un bœuf bourguignon, vous regardez recette de bœuf bourguignon sur Internet et on vous propose tout de suite, faites un bœuf bourguignon en 5 minutes. La cuisine, ça demande du temps et de l'amour pour faire des choses bien. Donc, dans la vie de tous les jours, j'ai pris le principe de dire que je voulais développer d'abord du travail autour de ce que j'aimais faire, donc autour du bateau, la menuiserie étant ma base de formation. Et puis, j'ai envie que le matin, quand je me lève, j'ai envie d'aller travailler. Moi, je vis sans montre maintenant depuis 10 ans. Je fais des journées qui peuvent faire 4 heures ou qui peuvent faire 10 heures. Ça dépend totalement de mon envie, de mon état physique à ce moment-là. Je ne me mets plus la pression, mais cette liberté, elle se paye. C'est-à-dire que mon idéal de liberté et de tranquillité, elle a une contrainte, qui est de ne pas être dans le système standard du salariat, avec tout ce que ça implique de gestion et des choses comme ça. Mais on y arrive. Et tout un chacun pourrait très certainement arriver, alors peut-être pas tout le monde, parce que je pense qu'il faut quand même avoir une certaine indépendance, une certaine pugnacité à faire ce qu'on a envie de faire et de se contenter de ce qu'on en a envie de faire et de ce qu'on gagne avec ça pour pouvoir vivre. Donc, je ne cherche pas à être le plus riche, je ne cherche pas à avoir le bateau le plus long, mais je suis bien comme ça et je suis heureux comme ça. Parce que si vous vous levez le matin avec envie d'aller là où vous êtes et là où vous allez passer votre journée, eh ben vous avez tout gagné. Déjà, vous avez le sourire et c'est bien. Voilà. Dans mes voyages, j'ai rencontré des gens très heureux, vivant au quotidien de façon simple, qui vous reçoivent chez eux et qui vous disent « Tiens, regarde, je décroche le jambon, je l'ai fait cet hiver, je t'en donne un bout, ou te donner du pain. » Parce que tu es en voyage, parce que tu n'es pas cela et parce qu'ils ont envie de partager. Et c'est ça la bonne vie, c'est ça le bon moment. C'est d'avoir envie de partager et d'échanger avec les autres. Dans la vie contemporaine, on nous vend des artifices pour soi-disant nous rendre heureux. une façon de consommer, d'exister même, on va dire. Parce que, en fait, si vous n'avez pas quelque chose, vous existez moins que votre voisin. Et tout s'est construit autour de cette philosophie. En fait, ce n'est pas d'avoir plus tout le temps qui rend heureux. Ce qui va rendre heureux, c'est de manger correctement et de pouvoir passer du temps avec sa famille et ses enfants quand on en a, voyager à moindre coût et sans polluer la planète par excès, et ainsi de suite. C'est ça qui va rendre heureux. C'est une philosophie de vie, mais qui n'est pas la philosophie que notre société a mis en place. Elle nous a enfoncé dans une société de consommation qui fait qu'il faut toujours avoir plus. Et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que ça rend pas heureux. Voilà, je crois qu'il faut assimiler ça et comprendre ça, et puis après faire son choix. C'est sûr que voilà, c'est un choix de vie aussi. C'est un choix de vie.
Ouais, merci beaucoup.
Bonne continuation et voyagez bien en bateau. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Et là, du coup, la dérive, c'est pour le bateau qui a le verre qui a fait.
Donc, il était remorqué par un remorqueur sur les canaux et les fleuves hollandais. Et ensuite, il a été gréé, il a été à voile, donc d'où les dérives qui permettaient de. Et donc, il a continué à faire du fret comme ça pendant longtemps, jusqu'au jour où il a été vendu pour être aménagé en appartement. Et où il a fini ici sur le canal du Midi. Et ça navigue encore. Voilà.
Merci.
Salut.